m'a sorti de faire part, où il y a deux versets dessus, plus des versets qu'il m'a donné, et il m'a dit, voilà, c'est sur ça que tu vas travailler. Donc ce matin, le message est inspiré des versets qu'ont choisi Mireille et Catherine, mais surtout guidé par le Saint-Esprit. Alors, si vous me permettez, je vais prier parce qu'il est bien mignon, Vincent, mais moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est mon Dieu, si vous le voulez bien. Seigneur, c'est bien, tu as fait de moi ton serviteur, et justement, bah, le serviteur a besoin du maître. Et le maître, c'est Jésus-Christ, qui se révèle par son esprit. Conduis-moi dans ta parole, conduis-moi que ma bouche soit inspiré par toi, que tout mon être soit guidé par toi, que ce ne soit pas de l'intelligence qui en sorte, mais des paroles qui touchent les cœurs, qui impactent les vies, pour la gloire de ton nom et pour la gloire de Papa seul. À toi soit toute la gloire. Amen. Alors ce matin, le thème du message, c'est Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Parce que moi, il m'interpelle sur beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de choses dans ma vie. Et quand je suis en train de préparer, parce qu'en parallèle, on préparait comme un mariage, il y a eu pas mal de choses. Ça n'a pas été facile. Hein, il y a eu des choses pas si évidentes que ça. Mais Dieu est bon. Et donc, je me suis basé sur... Le Seigneur m'a guidé de me baser justement sur ces versets qui faisaient partie de leur faire part de mariage. Et sans plus tard attendre, on va commencer. Le premier verset qui était mis tout en haut, je vous invite à lire et à ouvrir vos Bibles, ou maintenant vos iPads, vos téléphones, et que sais-je de numérique, dans le livre de Luc 11. Luc 11, à partir du verset 9 à 10, qui dit « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et je méditais sur ce verset et je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sorte de ce verset ?» Et comme me l'a très bien dit dimanche dernier Lionel, il faut toujours remettre un verset dans son contexte. Parce que si on sort un verset, on peut lui faire tout dire et n'importe quoi. Et donc, j'aimerais avec vous lire un peu plus le contexte de ce verset. Ah oui, j'ai même pas dit la fin du verset, excusez-moi. Vincent. Je reprends le verset, excusez-moi. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui a frappé. Voilà, j'avais estropié votre verset, excusez-moi. Et donc, comme je disais, il est toujours intéressant de remettre un verset dans son contexte, pour essayer de comprendre pourquoi ce verset a été mis à ce moment-là. Et donc, on va relire de 1 à 13. Donc, Luc 11, de 1 à 13. Donc là, c'est Jésus qui parle. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean, qui veut dire c'était Jean-Baptiste, l'a enseigné à ses disciples. » C'est une demande des disciples. Ils voient Jésus prier, mais apprends-nous à prier. En fait, faut dire quoi quand on prie, quand on parle à papa? À cette époque-là, on disait pas papa. Il leur répondit, vous prierez. Dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Il leur dit encore, si l'un d'entre vous a un ami et qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à la maison. Cet ami lui répondra, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour lui donner parce que c'est un ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou il donnerait du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Demandez. Dans ce texte, il y a pas mal de choses, et je vais en retirer quelques points parce que sinon il y aurait de quoi faire une étude biblique, vu qu'il y a pas mal de choses. Cela fait partie d'un enseignement de Jésus, chercher et frapper. Mais Jésus va développer des points déjà dans l'histoire de l'ami qui va demander des pains. Il y a la persévérance. Comment, moi le premier, je ne suis point persévérant. Des fois, je suis émerveillé de la persévérance de mon épouse dans un domaine, et moi, comment je peux me lasser vite. Et là, Dieu nous demande d'être persévérant, de continuer, de chercher. Dans ce texte, il est aussi dit que Dieu est bon. Nous avons deux exemples que Dieu est bon. Nous avons l'exemple du Père. Est-ce que si son fils, ton enfant te demande quelque chose de bon, est-ce que tu lui donneras quelque chose de mauvais? Non. À plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel sait ce dont vous avez besoin et vous donnera ce dont vous avez besoin. Dieu est bon et il le prouve à deux exemples. Dieu répond. Ah, Dieu veut répondre. Et on voit aussi dans ce texte que Dieu, là Jésus dit, frappez. C'est-à-dire qu'il y a une action qui vient de notre part vers Dieu. Pour ma part, moi je me suis converti parce que j'ai frappé, j'ai cherché, j'ai creusé. Et Dieu m'a répondu, Dieu m'a parlé. Et je sais que la plupart d'entre vous qui avez donné votre cœur à Jésus, qui êtes passés par les eaux du baptême, qui se sont engagés en Jésus, c'est parce que à un moment donné, vous avez cherché et Dieu a répondu. Tous ceux qui cherchent, tôt ou tard, vous aurez votre réponse. Mais est-ce que nous allons persévérer en moi? Et moi, je vous le dis, demandez. C'est-à-dire pas rester passif, Seigneur. Demandez. Cherchez. Frappez. Ce n'est pas des verbes. Hein. Il fallait frapper, il fallait demander, il fallait chercher. Non, c'est du présent. C'est encore valable aujourd'hui que nous devons chercher, nous devons frapper, nous devons demander. Combien je suis étonné de gens qui sont dans les difficultés et qui ne demandent pas d'aide. Et après, ils en veulent à Dieu. y a cette histoire de cet homme qui a une maison et qui a une inondation. Donc pour, il y en a quelques-uns qui la connaissent, donc je vais la faire assez courte. Il y a une inondation, l'homme, il y a de l'eau jusqu'aux chevilles, il y a les pompiers qui arrivent avec une voiture, il dit, bah, venez avec nous. Non, 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 Dieu va m'a sauver. D'accord. L'eau monte, il monte au premier étage, les pompiers arrivent avec leur bateau. Venez, on vous emmène. Non, 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 Dieu va me sauver. Ok. L'eau monte, il monte sur le toit de sa maison. Un hélicoptère. Les pompiers arrivent. Venez, non, Dieu va me sauver. Cet homme est mort. Et cet homme va dire, bah alors, tu ne m'as pas sauvé. Et Jésus va lui dire, bah attends, je t'ai envoyé un 4x4, un bateau, un hélicoptère, tu veux que je t'envoie quoi d'autre? Soyons un peu sérieux dans ce qu'on fait, de regarder un peu et de considérer les choses. Dieu nous parle, Dieu nous demande d'agir, mais Dieu nous demande d'avoir de la sagesse. Dieu est bon et il fait tous choses bonnes. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques concernant cette situation sanitaire. Mais je suis désolé de vous le dire, encore une fois, Dieu est au contrôle. Plus tard, on comprendra, mais c'est vrai que pour l'instant, je sais que la vente de rouge à lèvres ne doit pas beaucoup fonctionner, vu le nombre de fois qu'on met des masques sur la figure pour ces dames. Et nous-mêmes, l'avantage, c'est que pour moi, j'ai moins besoin de me raser, ça se voit moins. Mais Dieu est bon. Demandez. Cherchez. Et pourtant, Dieu parle. C'est le deuxième point que je voudrais vous apporter, c'est que Dieu parle par différents moyens. Dieu parle dans sa parole, premièrement. Dieu parle par l'intermédiaire de ses serviteurs ou ses servantes. Hein? Ce n'est pas réservé exclusivement aux hommes. Hein? Dieu parle dans la nature. Il y a des gens qui ont rêvé rien que de regarder la nature et considérer. On se dit, ouais, il y a quand même un Dieu. Hein. Après, il y a ceux qui pensent que c'est le Big Bang, mais ça, c'est leur. Que Dieu leur fasse grâce. Même à travers des non-chrétiens. Moi, Dieu m'a parlé à travers des non-chrétiens. Donc, c'est une vieille histoire. J'étais manutentionnaire. Et à côté de moi, il y avait quelqu'un qui sifflotait un chant. Alors, je peux vous dire que moi, ça a. Je lui ai posé la question, mais tu sais ce que tu siffles? Il dit non, je ne sais pas. Il sifflait. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Mon collègue de travail sifflait ce chant. Il ne connaissait même pas les paroles. Il ne savait même pas ce qui sifflait. Il avait un air dans la tête. Mais Dieu m'a parlé ce jour-là. Dieu m'a dit, hé, cherche-moi d'abord. Cherche ma présence. Mes frères et sœurs, moi je crois que Dieu nous parle énormément, mais souvent on a du mal à l'entendre. Et pourtant, Dieu nous parle. Dieu nous interpelle dans des circonstances bien précises. Parce qu'on est chacun à un niveau différent, avec des problèmes différents, des résistances différentes. Et pourtant, Dieu, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, vu que c'est lui qui nous a créés, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait comment nous réagissons. Il sait nos sentiments. Il sait toutes choses. Il sait que nous voulons être forts. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je suis faible en fait quand je suis devant lui? Dieu nous interpelle d'une manière ou d'une autre. Je me souviens de cette fleur. Il y a ceux qui vont voir un tas de gravats. Mais moi, j'ai vu cette fleur sur le chemin, au milieu de ce tas de gravats. L'esprit de vie au milieu de la désolation. De l'herbe qui pousse et qui explose le béton. Waouh! Que tu es grand! Tu nous parles de tant de façons. Tu t'adaptes en fonction de nos sentiments, de notre façon de parler. Mais quand Dieu parle, on a toujours le choix. On a le choix d'accepter ou de refuser. Parce que la parole de Dieu n'est qu'une proposition. Dieu propose une solution. Dieu se propose dans notre vie. Il ne s'impose pas, mais il se propose. Il te propose de prendre sa main. Dans le livre de Hébreux, alors j'ai pris plusieurs, on va en lire qu'un seul, parce qu'il y a Hébreux 4, 7, pour ceux qui écrivent, donc Hébreux 4, 7 ou Hébreux 3, 8, mais nous allons lire Hébreux 3, 15, qui en fait n'est qu'une répétition. Hébreux 3, 15 dit, alors je vous laisse chercher. Donc je répète, Hébreux 4, 7, Hébreux 3, 8, et donc on va lire Hébreux 3, 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est marrant parce que les chants qui ont été choisis par mon frère, parce qu'on ne sait pas coordonner, hein, le disent. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ce texte fait un parallèle par rapport au peuple qui s'est endurci dans le désert. Et on dira qu'il avait la nuque raide, un fond d'airain, le front qui était dur, la nuque raide, parce qu'il avait endurci son cœur. Et là, le Seigneur te dit, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, si tu perçois ma présence, n'endurcis pas. Mais j'ai une solution pour toi. J'ai une solution pour toi. Et c'est bien ce qu'a fait Mireille et Catherine. Ça a mis le temps qu'il fallait. Les gens vont dire, oh, non, ça a mis le temps qu'il fallait. Mais combien de choses dans nos vies nous avons à mettre d'aplomb sur les domaines que chacun vous savez, parce que le Saint-Esprit vous parle, il n'y a pas besoin que je les énumère. Mais Dieu parle. Dieu nous parle et il sait dans quel domaine de notre vie nous ne sommes pas au clair, ou que nous chutons, ou que nous avons du mal. Ça peut être sur la pensée, ça peut être sur plein de choses, les finances, les dieux des vêtements, de la voiture, ou que sais-je encore, toutes sortes de choses. Dieu vous parle, j'ai pas besoin. Faut-il reconnaître sa voix, être sensible et ne pas endurcir son cœur? Et justement, de dire, bah ouais, Seigneur, là, je suis pas bon. Et quand j'essaye, j'y arrive pas. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous avons un Dieu tout-puissant qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui se constitue. Et pourtant, ce Dieu tout-puissant, où tout l'univers tient dans sa main par sa propre volonté, veut être avec nous, nous conduire. La Bible dit que pas un seul cheveu de notre tête ne tombe qu'il le sache. Je peux vous dire que quand je nettoie la douche, il y en a un paquet, hein. Et quand je nettoie entre les enfants, les uns et les autres, oh punaise, il y en a! Il y en a! Et pourtant, Dieu, il sait. Et il sait ce dont nous avons besoin. Mais chaque chose en son temps. Si tu entends que Dieu te parle, sois sensible à sa voix. Sois sensible. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous aide. Quand Dieu met le doigt sur une situation de notre vie, Dieu a déjà la solution. Mon frère, ma sœur, quand Dieu met le doigt sur une situation de ta vie qui n'est pas en règle, et je peux vous dire que il en trouve régulièrement dans ma vie, donc je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais ce que je rends gloire à Dieu, c'est qu'il a déjà la solution. Il a déjà la solution pour en sortir. Et ça, Dieu a déjà la solution. Et dans la solution, il y a les bénédictions. Regardez, si nous prenons un petit parallèle vite fait dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu a guidé le peuple juif dans un combat, et bien des fois même ils n'ont pas combattu. Par contre, ils récupéraient tout le butin. Dans Gédéon, ils ont mis 2 jours à piller le camp qui avait été déserté. Pas déserté, c'était entretué. Mais 2 jours pour piller le butin, la bénédiction que Dieu veut vous donner. C'est pas juste de la théorie, c'est un Dieu de tous les jours, de pratique. C'est pas que le dimanche matin, mais c'est quand je me lève, quand je vais au travail, quand je suis sur la route. Comment il a bossé avec moi pour que je respecte la vitesse limite? Oh punaise! Mais voilà! Et de tenir ma bouche et de bénir ceux qui me font des choses sympas sur la route. Et ben voilà encore un domaine où j'étais pas bon. Je suis en marche. Franchement, sur vitesse limite, je me suis vraiment, gloire à toi Seigneur. Mais il y a encore du boulot. Le 30 est dur, très très dur. Je pense qu'en skate, j'irai plus vite. Mais bon, non, Dieu est bon. Il y a des solutions. Dans 1 Corinthiens 10, dans 1 Corinthiens 10, 13, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de ce verset. Et pourtant, il est si important. 1 Corinthiens 10, 13, c'est inconnu. Aucune tentation ne vous est parvenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Alléluia. Alléluia. Alors, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais j'ai souvent demandé si le Seigneur s'était pas planté de curseur. Sur certaines tentations, des fois je me suis dit, t'es sûr que t'as pas monté un peu trop? Non, non, Dieu est aux manettes et tout ce qu'il fait est parfait. Donc si il a permis ceci, comme il a permis à notre frère Job de passer par des tentations que je ne souhaite absolument à personne, mais il a donné la réussite. Et il veut vous donner la réussite. Dans ce que vous passez les uns comme les autres, dans les difficultés que vous avez les uns comme les autres, il y a la réussite. Il y a la bénédiction qui est juste derrière. Donc mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. Persévère. Dans Apocalypse 3, alors j'aime bien ce livre parce que, encore une fois, j'étais... à l'espace culturel avec mon fils et puis on regardait tous les films apocalyptiques et je rigolais parce que je dis si on les met en français ça veut dire révélation. C'est sûr que ça fait moins catastrophique parce qu'en fait l'apocalypse en français veut dire révélation. C'est pas un livre catastrophe même s'il annonce la fin des temps, mais ça veut juste dire révélation. Voilà, donc Apocalypse 3 de 14 à 21, Dieu adresse ses reproches. C'est l'histoire donc de l'église de Laodicée où Dieu adresse ses reproches à l'église de Laodicée. Il va lui dire, tu te crois bien, tu te crois riche, tu te crois. Et il va lui dire, tu es aveugle, pauvre et nu. Voilà, la sentence de Dieu vient de tomber, c'est très sympathique, hein? Mais Dieu, encore une fois, a la solution. Il te dit, viens à moi acheter du collyre. Viens à moi acheter de l'or éprouvé par le feu. Viens à moi. Il y a une solution pour qu'il puisse sortir de cet aveuglement, de cette tromperie. Et surtout, je reprends le verset de 19 à 20, donc Apocalypse 3, 19 à 20. J'y arrive. Qui dit, donc Apocalypse 3, 19 à 20, moi, je te reprends et je te châtie tous ceux que j'aime. Dieu reprend ses enfants parce qu'il nous aime. Parce qu'un père ou une mère qui aime son enfant les châtie. Alors châtier, ce n'est pas forcément de la violence, mais on reprend. Il y a l'image, moi j'aime beaucoup, d'un arbre, on va lui mettre un tuteur pour qu'il pousse bien droit. On va faire attention à ce qu'il mange, voire l'aider à croître pour la gloire de Dieu. Et Dieu dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, oups, j'ai raté la ligne. Et donc, aie du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut rentrer, mais il propose, il frappe. Toc, toc, je suis là. Mais est-ce qu'on va ouvrir sa porte? Est-ce qu'on va endurcir notre cœur? Est-ce que l'on va croire qu'encore une fois, les choses ne sont pas justes? Ou est-ce qu'on va croire que Dieu nous parle et qu'il a des solutions pour notre vie? Et je ne vais pas rester sur cette image que Dieu reprend. Tout parent qui aime ses enfants les reprend. Soit petit ou grand, on aime nos enfants et on les reprend. Parce qu'on les aime, parce qu'on veut les mettre au-dessus de nous, on veut qu'ils aillent plus loin que nous. Pas plus tard qu'hier soir, où je reprenais mes enfants en disant, ça serait bien que ce soit un peu moins le bazar à table, quoi. Parce que demain, quand il y aura des belles filles, ça fait un peu le boxon, quoi. Ça serait bien de monter un peu le niveau, d'être un peu plus élégant. Un peu moins bourru. Oui, nous avons quatre garçons, donc des fois ça s'est animé à table. Mais Dieu nous reprend parce qu'il nous aime. Dieu nous reprend, mais en plus il nous fait des promesses. Et nous pouvons la lire dans Philippiens 1 au verset 6. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Dans Philippiens 1, qui nous dit 1, chapitre Philippiens 1, verset 6, nous dit, donc c'est Paul qui parle, donc je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est pas lui. C'est pas Paul qui a commencé l'œuvre. Hein? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite ou complète pour le jour de notre Seigneur. Alors certains comprennent ce verset en disant, bon, de toute façon, je suis comme je suis, puis on attendra que je sois au ciel, il faut que je sois parfait. C'est une façon de lire la parole, mais moi je suis convaincu que l'on peut, sur certains domaines de notre vie, essayer d'atteindre justement cette dimension d'être complet en Jésus, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être plus près encore de Dieu. Ce n'est pas une parole passive, c'est une parole active, de persévérer dans la lecture, de la recherche de ce que Dieu peut accomplir. Dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 4 et 5, c'est encore Paul. J'aime beaucoup ce passage parce que on voit tout de suite l'homme comme il aime bien se mettre en avant. Et c'est pour ça que j'aime bien souvent dire tout ce que je rate. Parce que ça me rappelle moi aussi que je suis qu'un homme et qu'il faut que je fasse attention de ne pas chuter. Donc il y a une discussion qui s'anime et qui dit, moi je suis de Paul, un autre dit, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Est-ce donc d'Apollos ou est-ce donc de Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur a donné à chacun. Il y a des serviteurs et c'est ce qui a fait aussi une grosse destruction dans l'œuvre de l'Église où pour une question X, Y, on s'est mis sous telle ou telle tutelle. Et c'est pour ça que dans cette église, nous, on proclame qu'une seule chose, Jésus-Christ, mort, crucifié, ressuscité pour la gloire de Dieu. Tout le reste, ce sont que des histoires d'hommes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que dit la parole, ce que l'œuvre qui a été faite par Jésus-Christ. Donc par Jésus-Christ, nous avons justement cette moyen, cette grâce d'avoir la rédemption de nos péchés. Nous avons cette puissance de rédemption. Nous avons aussi une espérance glorieuse de la vie éternelle. Amen. C'est pour ça que moi, il est important pour moi. C'est tellement important. Combien de fois j'étais attristé, mes frères et sœurs, où je me souviens, mon père qui avait essayé à l'époque de travailler avec d'autres églises que je bénis. Nous ne sommes pas là pour médire sur nos frères et sœurs. Mais qui avait dit, oui, mais nous sommes telle étiquette, nous restons dans telle étiquette et nous ne travaillons pas avec les autres. Quelle tristesse! Et puis nous sommes un tel et nous restons dans notre giron et nous ne vous voulons pas. Pourtant, l'image du corps de Christ, définie par la parole de Dieu, c'est que nous sommes les pierres vivantes dans cette église. Mais après, il y a l'image glorieuse de l'église universelle, où chacun de nous sommes une pierre vivante, au service, à construire l'édifice à la gloire de Dieu. Mais l'orgueil et l'homme rajoutent toujours des choses qui ne glorifient pas notre Dieu. On peut apporter, comme moi je suis en train de vous apporter un message que Dieu a mis sur mon cœur. Mais une chose est claire, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Je peux être celui qui plante une graine dans un champ. Mais est-ce que c'est moi qui va la faire pousser? Est-ce que c'est moi? Je peux peut-être l'arroser à la rigueur. Mais c'est qui va faire que la plante va mourir pour donner? C'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Nous sommes tous au bénéfice de sa grâce. Nous sommes tous au bénéfice de ce Dieu vivant qui nous parle et qui veut agir dans nos cœurs, qui veut nous interpeller, qui veut nous sortir de notre situation. Et c'est pour ça que, pour moi, il est important de demeurer, de s'engager. Vous savez, quand on est un peu branli-branlant, c'est fou ce que le vent vous poussera à vous éloigner de Dieu. Mais le jour, et je crois que vous pouvez demander à tous ceux qui sont dans cette pièce, qui se sont engagés réellement pour Christ, est-ce qu'ils le regrettent? Pour ma part, je ne peux que rendre gloire à Dieu chaque matin quand je me lève, de tout ce que je vois, parce que tout ce que j'ai vient de sa main. En commençant par mon épouse, en passant par mes enfants, en regardant tous les biens, je suis dans une maison, mais mes placards, les... Seigneur, tu m'as béni. Et chaque matin, tu me bénis. Parce que chaque matin, tu es là et tu me donnes le souffle de vie. Et je peux vous dire qu'être passé par le Covid, le souffle de vie vous dit vraiment quelque chose. Il vous dit vraiment quelque chose. Nous avons le Dieu de vie. Et c'est pour ça que demeurer dans sa parole, et c'est une chose pour moi essentielle, et pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont pris cet engagement Jésus-Christ, la parole de Dieu est la vérité. Elle n'est pas discutable. Elle n'est pas négociable. La parole de Dieu est la vérité. Moi, et je sais que mes frères et sœurs, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu faite chair en Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Lionel nous l'a largement expliqué dimanche dernier, donc je ne reviendrai pas là-dessus. dans Jean 8, 31, 32, Jean 8, 31, 32 nous dit, donc quand, là c'est Jésus qui parle, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. De demeurer dans sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes dans un monde de joug, de règles, de condamnation. La loi de Dieu n'est pas une loi de règles et de condamnation. La loi nous prouve que nous sommes incapables d'y arriver. Un ou deux jours, nous allons y arriver, tant bien que mal, un peu ci, un peu ça, et tôt ou tard, on chute. On chute. Mais de demeurer dans la parole de Dieu, dans le sacrifice de la croix, nous rend libres et nous donne une vérité absolue. Si on remet ce verset dans le contexte, donc c'était le deuxième verset qu'ont choisi Mireille et Catherine, dans le contexte, ça va faire comme une bombe. Ce verset est une bombe pour l'époque. Si vous lisez dans le contexte, les Juifs vont dire « Oh, tu te prends pour qui là ? On n'a jamais été esclaves, nous. Nous sommes fils d'Abraham et on n'a jamais été esclaves. » Et dans la suite du verset, il dira « Mais du fait est que par vous êtes sous le péché, vous êtes esclaves du péché. Et il n'y a qu'un seul qui peut vous libérer. » Il n'y en a qu'un seul qui peut vous libérer. Et donc, celui qui peut nous libérer, c'est Jésus-Christ. Et cela demande un engagement, demande de s'enraciner, de s'accrocher. C'est ce qu'ont fait Mireille et Catherine. Ils se sont accrochés l'un à l'autre et ils sont devenus, comme dit la parole, une seule chair. Et c'est pour ça que nous honorons le mariage et que nous les avons bénis. Le danger, c'est juste de croire et rater la proposition que Dieu intervienne dans notre vie. Le danger, c'est juste « Oh, c'est bien, oh, il était bien ce prêche. Il prêche bien ce mec. Hein. » Mais on a raté la réalité que Dieu propose une solution pour te faire passer de la mort à la vie. D'intervenir dans ton problème personnel, comme il intervient dans mes problèmes personnels. Et de t'engager pour quoi? Mais pour que tu sois libre. Libre du péché, libre de toute chose. Dieu, encore une fois, vous fait, nous fait, me fait une proposition. Nous propose, mais ne s'impose pas. Mais il te propose justement une liberté en Jésus-Christ. Inversement, Dieu, lui, s'est engagé pour nous en Jésus-Christ. Mais nous, allons-nous nous engager pour lui? Nous étions pas là quand il est passé Jésus, hein. À moins qu'il y en ait certains qui ont plus de 2000 ans, donc là je voudrais bien être à votre pied pour écouter ce que vous avez à me raconter. Donc nous n'étions pas là quand Jésus est né. Et pourtant Jésus, il est mort pour nous aujourd'hui. Il est mort pour nous aujourd'hui et sa parole demeure encore aujourd'hui présente. Quel domaine de notre vie, quelle situation de notre vie allons-nous lui donner? Il y a ceux qui, c'est une conversion, et d'autres, ça va être des morceaux, des zones dans notre vie qui ne correspondent pas parce qu'on lui a déjà donné notre vie, notre sérieux, notre consécration, notre engagement envers lui, nos temps de prière, le temps de lecture. Et puis quand la parole nous parle et qu'elle nous gratte, De dire, bon, bah là, Seigneur, ça me gratte et j'ai ça. Dieu s'engage pour nous par son Fils. Mais nous, est-ce que nous allons nous engager pour lui? Encore une fois, c'est une proposition. Dieu vous fera que des propositions. Mais attention, il est marqué dans la parole que Dieu propose jusqu'à un certain temps et après. Dieu veut que tous soient sauvés et soient amenés à la connaissance de la plénitude de Dieu. Tous. Mais cela dépend toujours de nous. Je vais conclure. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que si le Seigneur m'a demandé d'apporter ce message, c'est que peut-être que certains déjà ont entendu et que certains ont déjà eu un à la porte de votre cœur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Allons-nous prendre la main tendue de Dieu pour nous faire passer de la mort à la vie? Allons-nous prendre la main tendue de Dieu pour nous faire passer de la mort à la vie? Dieu propose toujours, nous sommes libres d'accepter ou de refuser. Mais avant que tu répondes hâtivement, considère la situation, sachant que Dieu peut y intervenir. Je recommence. Dieu propose toujours, nous sommes libres d'accepter ou de refuser. Mais avant de répondre hâtivement, considère ta situation, sachant que Dieu peut y répondre, peut intervenir. C'était hier soir encore, j'étais en train de prier, j'étais dessus, et c'était ce qui me faisait écrire, Seigneur. Pourtant, le message, je l'ai eu au moment qui m'ont donné le faire-part, donc ça fait un peu plus d'une semaine. Quasiment 15 jours. Et le Seigneur encore, il me travaillait le cœur hier soir, il me dit, écris ça. Moi, je suis son serviteur, donc j'écris. Dieu propose toujours, mes frères et sœurs, nous sommes libres d'accepter ou de refuser. Mais avant que tu répondes hâtivement, considère ta situation, sache que Dieu peut intervenir. J'ai beaucoup aimé le message de mon frère Marc qui nous a développé que le monde nous fait des promesses qui n'aboutissent pour ainsi dire jamais, que toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu s'accomplissent toujours. Ces promesses s'accomplissent toujours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite franchement, les uns et les autres, si ce message vous a un peu troublé, posez la question à mon père, à ma mère, à mon frère Lionel, à ma sœur Corinne, à Jeanne, tous ceux qui se sont engagés, et d'autres, tous ceux qui se sont engagés, demandez-leur s'ils regrettent de s'être engagés. Vous verrez qu'ils ne vous diront jamais. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas passé par des moments difficiles, même mon frère, ma sœur, demandez-leur, vous verrez. Ce n'est pas une vie tranquille. Là, je vous mentirais. Mais c'est une vie de victoire. Ça, c'est une réalité. Je ne vais pas vous vendre un parfum édulcoré. Non. Mais c'est une vie de victoire. C'est une vie de victoire. Restons attentifs à Dieu qui veut nous interpeller pour notre bien. Il veut nous interpeller, mes frères et sœurs, parce qu'il vous aime, parce que dans ce domaine-là, il a la solution. Et ce sont des choses souvent qui grattent, qu'on n'aime pas. Permets à Dieu de mettre la lumière. Permets à Dieu de pouvoir te sortir de cette situation. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que Dieu nous aime. Alléluia. Oh oui, Dieu nous aime. Il veut notre bonheur. Il veut notre bonheur. Et il a toutes, et il a toutes les solutions. Il n'y a rien dans ce monde. Il y a des belles choses dans ce monde. Mais celui qui a la solution, mes frères et sœurs, elle est en Christ. Amen. Je voudrais vraiment vous laisser sur ces pensées que Dieu se propose à vous et qu'il il est là, il attend. Il veut, mais ne fera jamais contre ta volonté. Mais je peux te dire qu'il est là. Combien de fois nous le sentons et qu'il nous aime et qu'il veut toucher nos cœurs, nos pensées, nos âmes. Vous n'imaginez même pas la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. C'est vrai que c'est souvent que je le dis. Mais si vous pouviez voir comment Dieu me fait voir que vous êtes, la valeur que vous avez, et que nous nous égarons pour des bêtises. Mes frères et sœurs, vous êtes si importants à ses yeux. La Bible déclare que vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous avez plus de valeur que l'or et l'argent. Si ton cœur a été touché, s'il y a quelque chose qui a percuté ton cœur, saisis-le ce matin. Ne reste pas inactif. Ne reste pas insensible. Mais laisse ton cœur pénétrer par sa présence. Parce qu'il a une solution pour toi. Et quand j'ai une solution, c'est dans tous les domaines. Bien souvent, on a limité Dieu dans certains domaines. Mes frères et sœurs, Dieu peut intervenir dans tous les domaines. De la santé, dans les finances, mais dans les sentiments, dans les regrets, dans les relations, dans le travail, dans ta voiture. Combien de fois j'ai prié pour une voiture qui ne démarrait pas et combien de fois elle s'est mise en marche. Je me souviendrai toujours de ce jour où la voiture de mes beaux-parents, j'étais chez eux, elle ne voulait plus démarrer, on tournait la clé, il n'y avait rien. Vous pouvez demander, je suis nul en mécanique. Demandez-moi de faire autre chose, mais la mécanique, pour moi, c'est un grand mystère de l'univers. J'ai posé les mains à la voiture, j'ai regardé, j'ai tourné la clé, elle a démarré. Ma belle-mère m'a demandé, mais comment t'as fait? Je dis, j'ai prié. Oui, non, mais c'est bien, mais qu'est-ce que t'as fait? J'y connais rien en voiture, moi. J'ai prié, et Dieu est intervenu. Combien de fois on empêche Dieu d'intervenir dans nos vies? Combien de fois on empêche Dieu de pouvoir nous toucher? Combien de fois notre cœur pleure et on ne veut pas qu'il vienne nous le cajoler? Combien de fois nous sommes mal et nous préférons rester dans notre mal? Combien de fois nous avons des idées tordues? Combien de fois, pour une parole d'un frère, d'une sœur, on a pris une décision hâtive? Au lieu que d'appliquer la parole de Dieu, de prier pour son frère, pour sa sœur, et de lui pardonner, comme nous avons pu lire au début, pardonne-nous parce que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Combien de fois, avec une parole maladroite, nous avons offensé, j'ai offensé, j'ai mal agi. Et je crois que malheureusement, je ferai encore. Mais je prie Dieu pour que justement il travaille ce domaine-là de ma vie. Pour que ce soit comme c'est marqué dans ta parole, que toutes mes paroles soient empreintes de douceur et d'amour. Mes frères et sœurs, si cette parole t'a touché, n'endurcis pas ton cœur, mais au contraire, sois attentif, que même réjouis-toi que Dieu t'a parlé. Amen. Bien Seigneur, je veux te louer, te remercier pour ce message que tu m'as fait apporter. Seigneur, je sais que ta parole dit qu'aucune de tes paroles ne soit donnée, qu'elle ne porte du fruit. Donc je te rends toute la gloire, Père, de l'œuvre que tu vas faire dans le cœur, dans les consciences de mes frères, de mes sœurs et dans ma propre vie. Oui, j'ai des domaines de la vie où j'ai besoin que tu interviennes. Je ne suis qu'un homme, mais je veux te servir et te rendre toute la gloire. Père, je te prie vraiment que si ton esprit a touché ce matin des cœurs, qu'ils ne restent pas insensibles à ta parole, mais qu'ils puissent vraiment profiter de cette grâce d'être interpellés et d'être touchés, et de passer de la mort à la vie, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.